sur Radio Évasion 100.4 FM. Voici la deuxième partie du LEM avec un rendez-vous fidèle et mensuel qui nous paraît très important, bien que le sujet soit parfois déconcertant. C'est un rendez-vous avec l'Europe. On vous la décortique, on vous l'explique, ou plutôt ce sont les membres de l'association Braise Europe Finistère, notre partenaire très active, dont l'un des fondateurs, Jocelyn Chesnel, a interviewé pour nous Sylvie Guillaume, qui est députée européenne PS. C'est sur les questions liées à différentes minorités.
Madame Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée. Aujourd'hui, nous allons échanger de deux sujets particulièrement, donc celui des personnes LGBTI au sein de l'Union européenne et aussi celui des personnes migrantes. Donc, une première question, c'est que vous êtes membre de ce qu'on appelle l'intergroupe LGBTI au Parlement européen. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous y faites? Quel est l'objectif de ce groupe de travail, mais encore de quelles compétences il est doté éventuellement?
Bonjour et merci de prendre contact avec moi. Alors, un intergroupe au sein du Parlement européen se constitue à partir du moment où des parlementaires considèrent qu'un sujet mérite une attention particulière et que son insertion dans une commission parlementaire traditionnelle n'est pas suffisante pour lui donner le relief et la visibilité nécessaire. Et cet intergroupe qui est très ancien au sein du Parlement européen, et donc ça s'est donc reconstitué avec les élections de 2019, et cela sert, si vous voulez, à mettre en lumière un certain nombre de le sujet en l'espèce, la question des LGBTI dans l'Union. Ça mène des enquêtes, ça met en lumière des amendements quelquefois qui sont proposés dans certains textes qui sont particulièrement négatifs concernant la question des LGBT. Donc ça, en gros, c'est le coup de projecteur sur une question en particulier, là la question des LGBTI et comment protéger les droits des LGBTI dans l'Union.
Parce qu'il y a un sujet là dont tout le monde semble parler, en tout cas c'est un sujet qui est très médiatisé, c'est celui des personnes LGBTI justement en Pologne et en Hongrie. Pourquoi selon vous est-il important de réagir là-dessus?
Alors l'intergroupe nous a beaucoup aidé effectivement au plan du Parlement européen à avoir la visibilité de ce type de sujet, car ce sont des vrais, vrais gros sujets. Que faut-il savoir? Par exemple, s'agissant de la Hongrie, qui, on le sait quand même, a un pouvoir qui est un pouvoir très autoritaire, donc sur beaucoup de sujets qui, à bien des égards, assez réactionnaires, pour rappeler les choses comme elles sont et sans embâche. Globalement, ce qu'on a constaté, c'est que, y compris très récemment, en décembre dernier, plusieurs textes ouvertement anti-LGBT avaient été inscrits dans la Constitution ou tentaient d'être inscrits dans la Constitution hongroise, notamment la question du genre. Et par ailleurs, on a repéré qu'il y aurait un autre texte qui interdirait de facto l'adoption aux couples de même sexe. Donc c'est évidemment parfaitement contraire aux valeurs européennes, même si évidemment le Premier ministre hongrois dit que l'Union européenne n'a rien à voir là-dedans. Donc ce texte, en fait, ces textes définissent que voilà, le sexe, c'est le sexe de naissance, et puis après, les choses sont terminées, et que l'éducation, selon les valeurs à la hongroise, doit être exclusivement sur une culture chrétienne et en lien avec l'identité dans la Constitution. Et c'est là où ça boucle la boucle, puisque dans la Constitution serait inscrite qu'il n'y a qu'un modèle et pas un autre en Hongrie. Donc c'est vraiment tout à fait délétère. On ajoute à ça le fait que seuls les couples mariés peuvent adopter des enfants. Donc évidemment, ça exclut tout un tas d'autres personnes. Donc c'est ça qui est en cause, et je vous passe certains détails sur l'interdiction d'inscrire un changement de sexe à l'état civil et les croisades sur les valeurs chrétiennes traditionnelles qui sont menées dans ce pays. Donc les personnes LGBT sont discriminées dans un certain nombre de droits en Hongrie. Et en Pologne, alors là on a un phénomène qui est proprement à la fois scandaleux et stupéfiant, avec des collectivités qui, dans certaines d'entre elles, enfin, qui représentent en totalité quand même un gros pourcentage de la population polonaise. Ces collectivités ont adopté des résolutions dans lesquelles elles disent qu'un certain nombre de services ne seront plus accessibles à des personnes LGBT. Et Donc on appelle ça des LGBT free zones, c'est comme ça qu'elles sont interprétées par ces collectivités. Et donc c'est là aussi proprement scandaleux et proprement discriminatoire. Et donc l'Union a réagi en indiquant que notamment s'agissant de l'utilisation des fonds européens, on ne pouvait pas au plan européen se satisfaire de méthodes de discriminatoires et donc que ces fonds européens ne seraient pas accessibles à ces collectivités. Donc voilà des exemples très précis de discrimination et d'atteinte aux droits des personnes LGBT.
Je rebondis, au-delà de ces minorités que l'on cite, en Pologne, par exemple, la situation des droits des femmes, aussi des droits des femmes polonaises, paraît assez préoccupante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette situation?
Oh oui, je peux. Malheureusement, elle est là aussi tristement et scandaleusement simple. C'est que les femmes polonaises sont confrontées, elles aussi, à un pouvoir national qui est très réactionnaire sur la question de l'accès à leurs droits génésiques et qui donc, à chaque occasion, très régulièrement ces dernières années, a pondu des textes qui visaient à réduire le droit à l'avortement et le droit à la contraception. C'était déjà un pays dans lequel cet accès était extrêmement difficile, avec le recours des femmes à aller pratiquer une IVG en dehors de la Pologne, puisque les lois étaient extrêmement restrictives au sein du pays. Et là, le pouvoir polonais essaye, toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, à rendre l'accès à l'avortement encore plus restrictif. Seulement quand il s'agit d'un risque pour la mère, quand le bébé est mal formé. Donc c'est complètement un non-choix possible pour ces femmes. Et donc ça a généré, et on a au plan européen, au plan du Parlement européen, été très actif pour les soutenir, des manifestations très 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 suivies de la part des femmes polonaises qui ont agrégé à elles aussi, un peu au-delà des femmes, les hommes pour défendre leurs droits et puis donner aussi le signal que la société doit changer aussi en Pologne et aller vers une société plus progressiste. Donc c'était ce message-là qui était aussi porté par l'intermédiaire des femmes qui étaient en grève en Pologne.
Pour rester sur les questions relatives aux droits humains et s'il s'agissait de voir au-delà donc de celles quant aux droits des femmes ou des minorités, vous êtes engagé par les questions relatives au phénomène migratoire. Depuis 2021, c'est-à-dire depuis un mois à peine, ce sont approximativement 150 personnes qui ont trouvé la mort en mer Méditerranée, dans ce qu'il convient d'appeler quand même un charnier méditerranéen. Et on apprenait en septembre 2020 que la Commission européenne avait pour projet une nouvelle politique commune de l'asile et de l'immigration. Donc la question, elle est la suivante, c'est croyez-vous en fait que ce projet-là saura répondre à cette situation qui est dramatique?
Vous avez raison de revenir sur ces chiffres terribles du charnier en Méditerranée. On estime que 30 000 personnes ont sombré, sont noyées en Méditerranée ces dernières années, encore que ce chiffre est sans doute minoré par le fait que beaucoup sont malheureusement morts dans une totale invisibilité. Et donc on n'arrive pas à compter le nombre réel de décès en Méditerranée. Pour répondre très concrètement à votre question, de savoir si le pacte asile-migration présenté en septembre dernier va résoudre cette situation, je serais malheureusement obligée de vous répondre que je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que ce pacte part de présupposés qui ne me semblent pas répondre à l'urgence et ne semble pas me paraît pas répondre à ce qui fait problème dans la question de migratoire et d'asile au plan européen, qui est la question de la solidarité. Ce pacte propose une forme de solidarité entre les États membres, que au Parlement européen on aurait souhaité contraignante, c'est-à-dire qui permette et oblige tous les États membres de l'Union de prendre leur part à l'accueil des personnes exilées, qu'il s'agisse de migration ou d'asile, de façon donc contraignante. Et ce pacte ne le prévoit pas, ne l'organise pas, et donc ne permet pas un management apaisé des migrations vers l'Union européenne. Ce qui est prévu en termes de solidarité, c'est que finalement les pays de première ligne, de première entrée, continuent d'accueillir le maximum de personnes et ceux qui ne veulent pas accueillir, les États membres qui ne veulent pas accueillir de migrants, eh bien, peuvent être éventuellement sollicités pour payer des équipements. Ou bien plus généralement pour payer les retours des personnes qui ne seraient pas admises sur le territoire de l'Union européenne. Évidemment, je vais vite parce que nous avons peu de temps, mais j'ai essayé de résumer l'état d'esprit de ce pacte en matière de solidarité. Donc évidemment, le compte n'y est pas et on ne peut pas appeler une vraie solidarité entre les États membres un choix qui est fait de ne pas accueillir des personnes qui arrivent. Puis il y a un deuxième problème aussi qu'on peut signaler qui ne règle pas la situation, c'est que la principale charge, la principale responsabilité continue d'être celle des pays de premier accueil, donc les pays qui sont aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et donc le principe du règlement Dublin, qui est que en matière d'asile, c'est le pays où vous entrez en premier qui est responsable en totalité de votre demande d'asile, n'est pas modifié par ce nouveau texte. On pourrait y ajouter malheureusement aussi que c'est un texte qui généralise la détention parce qu'il généralise l'examen de toutes les demandes aux frontières extérieures de l'Union, donc sans entrée sur le territoire. Et donc, toute proportion gardée, on a beaucoup critiqué, et à raison, l'existence de camps en Grèce surpeuplés et qui s'apparentaient furieusement à des centres de détention. Eh bien, il y a fort à prévoir, malheureusement, que pour faire ce screening des personnes aux frontières extérieures de l'Union, l'Union va être obligée, enfin, les pays d'accueil vont être obligés de les mettre en rétention et donc créer à nouveau ces centres surpeuplés dans des conditions sanitaires qui sont totalement déplorables. Donc non, malheureusement, je suis obligée de vous répondre que vis-à-vis de ces différents aspects, et il y en a d'autres malheureusement, ce plan ne m'apparaît pas de nature à répondre correctement à ce qui devrait être notre choix et notre but, c'est-à-dire de considérer que la question de la migration est une question qui s'est posée pendant des siècles, qui va se poser dans les siècles à venir, que c'est un mouvement, une mobilité qui existe, qu'il faut donc la prendre en compte et l'organiser. Voilà, je dis toujours, je ne suis pas quelqu'un qui ne veut pas de frontières, qui considère que tout le monde doit faire exactement à 100% de ce qu'il veut, ce qui est le cas d'un certain nombre de mes collègues. Je dis que la migration est un droit et que puisqu'elle est un droit, elle doit être organisée. Et donc, il faut avoir un débat apaisé aussi sur ce sujet et peut-être encore un mot là-dessus, pardon d'être longue, mais parce que je considère que la question migratoire et la question de l'asile est toujours utilisée par un certain nombre de régimes et un certain nombre d'hommes et de femmes politiques pour agiter les peurs. Et tant qu'on n'aura pas de bonnes solutions, ces peurs continueront d'être agitées et donc les opinions publiques seront inquiètes. Et ce n'est pas du tout ce sens-là dans lequel il faut aller.
Tout à fait, oui. Cela permet de rebondir sur la question des frontières. Entre autres, c'est que d'aucuns affirment que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qu'on appelle Frontex, aurait participé à des refoulements illégaux de migrants en mer Méditerranée. Et bon, on pouvait lire d'ailleurs dans la presse les jours derniers que le patron de Frontex, Patrice Légéry, était en mauvaise posture, ouais, un petit peu à cause de ça, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage de l'enquête qui est menée à cet égard, justement, à l'égard des refoulements illégaux?
Alors, l'agence Frontex, par le biais de son directeur général Fabrice Leggeri, est effectivement l'objet de plusieurs enquêtes et de la part de plusieurs entités, puisque la Commission s'y intéresse, largement poussée par le Parlement européen, qui lui-même n'a pas de pouvoir d'enquête directe, mais qui, par le biais de questions, d'auditions, a entendu déjà plusieurs fois Fabrice Leggeri et a demandé à la Commission d'aller plus loin dans les enquêtes. De quoi s'agit-il? En gros, de mensonges et de dissimulation de la part de l'agence qui rendent son fonctionnement très opaque et crée, je dirais, une distorsion dans la relation confiante que l'Union européenne devrait avoir avec Frontex, qui n'est évidemment plus le cas. Donc il y a effectivement la question de la participation éventuelle à des refoulements illégaux. Là, les premiers éléments que nous avons, c'est la dénégation de la part de l'agence sur ces refoulements, sous l'angle qu'il s'agirait de gardes-côtes et de gardes-frontières nationaux qui auraient eu des attitudes inadéquates, mais auxquelles Frontex n'aurait pas participé. Mais on a également de la part de l'agence, et ça met la Commission très très en colère, une réticence importante à mettre en route. Ce qui était des lignes d'orientation pour le fonctionnement de Frontex, qui doit avoir en son sein un dispositif de contrôle des droits fondamentaux. Il y a quelques années, participé à la mise au point de ce dispositif. Donc la Commission demande à Frontex d'avoir un comité de contrôle des droits fondamentaux, et l'agence ne l'a pas mis en place correctement, ou pas du tout dans certains domaines. Et donc ce sont des orientations clairs qui ne sont pas respectés. Donc, il y a à la fois cette demande de mettre en route toutes les dispositions qui sont prévues pour avoir un contrôle des droits fondamentaux dans le fonctionnement de l'agence, et puis d'avoir aussi des éléments et des informations et des documents précis sur ces pushbacks auxquels Frontex aurait participé. Donc, c'est une histoire vraiment terrible, parce que Frontex est passé d'une agence financièrement dotée, je crois, de 3 ou 4 millions d'euros à une agence extrêmement puissante, avec cette demande permanente des responsables, des chefs d'État et de gouvernement, d'avoir une agence dotée de dizaines de milliers d'agents. Donc la demande, la croissance a été exponentielle, à la fois financière et en RH, à Frontex. Et au final, on mesure qu'il y a des zones de fragilité et potentiellement de transgression de la législation qui sont très très importantes.
Vous avez évoqué les frontières extérieures de l'Union européenne. Récemment, en Bosnie-Herzégovine, on pouvait lire dans la presse que la situation des migrants internationaux était très préoccupante. La Bosnie-Herzégovine, ce sont les portes de l'Union européenne. Et on pouvait effectivement bien comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de personnes migrantes qui dorment dans le froid, vraisemblablement certaines y meurent même, sans forme d'aide beaucoup plus conséquente qu'habituellement. Et on pourrait hein, dire qu'en France, il y a des situations similaires, même si elles peuvent paraître moins préoccupantes, qui peuvent être signalées. Donc là encore, et ce sera la toute dernière question, comment fait-on, selon vous, respecter le droit des êtres humains au sein de l'Union européenne, tout simplement?
Alors, la Bosnie-Herzégovine n'est pas dans l'Union européenne, mais votre question est parfaitement légitime, de savoir comment on fait respecter le droit des êtres humains. En l'espèce, dans cette situation, il s'agit d'environ 6 000 personnes qui sont bloquées, mais aussi en raison de refoulement. C'est là où l'Union européenne a son rôle à jouer, en raison du refoulement dont beaucoup d'entre eux ont fait l'objet, ou des pushbacks, dont beaucoup d'entre eux ont fait l'objet de la part de la Croatie, qui, elle, est dans l'Union européenne. Donc, on est dans une situation effectivement totalement délétère. D'un point de vue sanitaire, totalement délétère également, avec des incendies qui ont eu lieu et des gens qui sont sous tente, coincés dans le nord-ouest de la Bosnie, et dans des conditions d'existence qui sont totalement pitoyables, dans le froid. Donc, je pense que, enfin, on a eu cette discussion cette semaine au sein du Parlement européen, avec des propos extrêmement sévères de la part des parlementaires européens, qui demandent à ce que les migrants de Bosnie, enfin, tout le monde ne le demande pas, j'imagine que vous le comprenez bien, au sein du Parlement européen, les élus d'extrême droite ne demandent pas cela, mais beaucoup des députés demandent à ce que les migrants de Bosnie soient relocalisés dans des États membres, de manière à ce que leurs droits humains soient respectés. Il faut savoir que l'Union européenne a versé à la Bosnie-Herzégovine des fonds assez conséquents, encore jusqu'en décembre dernier et janvier de cette année, pour que le management soit meilleur et qu'il y ait une aide humanitaire directe. De mémoire, c'est près de 30 millions d'euros qui ont été versés. Donc, et depuis 2018, ces sommes sont allées aussi croissantes. Donc il faut prendre des mesures directes en Bosnie-Herzégovine maintenant, mais l'Union européenne doit aider la Bosnie à avoir un système d'asile qui fonctionne. Il faut sans doute évoquer la question de la conditionnalité des fonds de préadhésion, puisque la Bosnie est en préadhésion à l'Union européenne, et puis demander également à ce que la Croatie respecte ses engagements dans l'Union européenne et donc ne fasse pas ses pushbacks vers la Bosnie. Donc c'est un système, enfin c'est une situation extrêmement sérieuse, tout à fait symbolique d'un pays qui est en préadhésion et d'un autre qui est déjà à l'intérieur de l'Union et de l'obligation qu'a l'Union européenne de faire respecter les droits fondamentaux partout où elle agit.
L'eurodéputée Sylvie Guillaume, interviewée par Jocelyn Chesnel de l'association Braise Europe Finistère, qu'on retrouve chaque premier mardi du mois dans l'EM.